dernière émission avait permis de rappeler l'existence d'extrêmes religieux au premier siècle de notre ère. Vous vous souvenez, nous avons évoqué les Boétusiens et puis les Esséniens, parmi lesquels celui qui allait donc être le héros d'un épisode tragique, Jésus de Nazareth. Nous avions évoqué donc l'histoire de Yoshua. Et puis, aussitôt après, nous avions abordé l'histoire de la diaspora, c'est-à-dire que nous rappelions comment les Juifs s'étaient dispersés à travers le monde antique à cette époque. Et puis, comment, là où ils s'installaient, ils attiraient souvent la haine de commerçants ou d'artisans dont ils devenaient concurrents, bien sûr, par la force des choses, mais aussi ils suscitaient l'admiration de pas mal de gens, d'abord parce que leur réussite, bien sûr, était source d'admiration, et puis parce que ils étaient porteurs de principes moraux qui étaient tout à fait inconnus dans les régions où ils s'installaient, et donc ils suscitaient souvent l'admiration, et ils provoquaient, sans le vouloir, ils provoquaient un certain engouement pour le judaïsme, et on assista à cette époque à un certain nombre de conversions. Mais beaucoup de gentils par opposition à juifs, hésitaient tout de même à se convertir à part entière, en quelque sorte. Bon, la circoncision, c'était quand même pour les hommes quelque chose d'assez difficile, et puis 613 commandements, c'est quand même beaucoup, lorsqu'on n'en a eu que 7 à observer, si tant est qu'on les ait observés jusqu'à présent. Et c'est pourquoi, et nous terminions sur cette évocation, il y a eu un certain nombre de non-juives qui se sont mis à observer certaines pratiques juives, mais sans s'identifier totalement au peuple juif. Et c'était ce qu'on appelait des craignants Dieu, des demi-juifs en quelque sorte, mais qui élevaient leurs enfants de telle sorte que ceux-ci devenaient d'authentiques juifs. Et c'est ainsi que nous expliquions pour partie le grand nombre de juifs qui vivaient dans la diaspora à cette époque. On éprouve toujours quelques craintes envers ce qui est peu familier, et la grande majorité des païens à cette époque donc tenaient le judaïsme en suspicion. À leurs yeux, il était étrange et inquiétant. Plusieurs maîtres spirituels de l'époque entreprirent de défendre les croyances et les idées dans lesquelles ils avaient été élevés. En général, ils ne croyaient plus à l'existence réelle des dieux et des déesses de la mythologie grecque et romaine, mais ils leur restaient néanmoins attachés, les considérant comme de belles explications du monde et des forces naturelles. Ils parlaient avec dédain de ces païens qui s'intéressaient au judaïsme. Cette religion leur paraissait froide et contraire à la nature. Le poète latin Horace, par exemple, ironisa au sujet des Romains qui observaient le Shabbat. D'autres auteurs critiquaient les Juifs, les traitaient de superstitieux, parce qu'ils croyaient en un Dieu qu'ils ne pouvaient ni voir ni décrire. Ils les flétrirent comme ennemis du divin et prouvèrent, pour leur satisfaction personnelle, qu'ils étaient aussi des ennemis du genre humain, puisqu'ils refusaient de prendre part aux cérémonies entachées de paganisme. Il y avait plus grave, à savoir les libelles sur le judaïsme écrits par les prêtres païens. Pour combattre la prétention des Juifs selon laquelle le Dieu d'Israël avait fait sortir victorieusement son peuple d'Égypte, les prêtres égyptiens affirmèrent que leurs archives offraient une version différente de la même histoire. Les anciens Hébreux, dirent-ils, étaient un groupe d'esclaves devenus lépreux. Pharaon, sur le conseil des dieux égyptiens, les chassa du pays. Ils ridiculisèrent l'idée juive d'adorer un dieu invisible, Au contraire, affirmèrent-ils, les Juifs possédaient, cachés dans le sein des saints, l'image d'un âne qu'ils adoraient. Et pour exciter encore les sentiments anti-juifs, ils lancèrent l'accusation selon laquelle chaque fois qu'un juif capturait un grec, il le cachait dans le temple de Jérusalem pour l'offrir ensuite en sacrifice à son Dieu. Et voilà la naissance du crime rituel qu'on retrouvera tout au long de l'existence du peuple juif. Et de semblables récits étant répandus parmi les masses, il n'y a pas lieu de s'étonner si pour chaque converti gagné au judaïsme, il y avait 10 païens qui tenaient les juifs pour suspects à cause de leurs idées excentriques et qui les craignaient pour leurs coutumes mystérieuses et inquiétantes. Comme si la concurrence commerciale et les différences religieuses n'étaient pas suffisantes pour causer des frictions, une troisième cause intervint. Les privilèges politiques accordés aux Juifs par le gouvernement romain. L'origine des complications provenait de ce que ni les Juifs ni les païens ne faisaient clairement la distinction entre la religion et les autres aspects de la vie. Chaque événement de la vie publique, que ce fût une réunion politique ou une course de chars, s'ouvrait par une courte cérémonie en l'honneur du dieu ou de la déesse tutélaire de la cité. Pour les païens, elle avait la même signification qu'aujourd'hui le fait de se lever lorsqu'on joue l'hymne national. Mais le judaïsme interdisait à ses fidèles d'honorer, de quelque manière que ce fût, un dieu païen. Aussi, les Juifs ne pouvaient-ils exercer aucune fonction publique. Ce qui était plus grave, la population juive prêtait ainsi le flanc à l'accusation de manquer de patriotisme. Les monarques, qu'ils fussent égyptiens, syriens ou parthes, comprirent la situation difficile de leurs sujets juifs. Et ils leur accordèrent des privilèges, leur permettant de faire partie de la grande communauté politique, tout en les dispensant de toute obligation liée au rite païen. Évidemment, cela signifiait que les Juifs ne pouvaient être nommés fonctionnaires municipaux. Les premiers immigrés juifs ne s'inquiétèrent pas de ces restrictions à leurs droits politiques. D'abord, parce que ces postes n'avaient qu'une importance sociale, mais surtout parce qu'ils étaient heureux d'être dégagés de tout contact avec le paganisme. Pendant longtemps, cet arrangement fonctionna d'une manière satisfaisante. Les difficultés ne commencèrent réellement qu'après que les Romains eurent conquis l'Égypte, qui perdait ainsi son indépendance. La population grecque, qui gouvernait l'Égypte depuis plusieurs siècles, depuis Alexandre le Grand et le grand Ptolémée, fut humiliée de la voir devenir une simple province de l'Empire romain. Jules César et Auguste le comprirent, et ils tentèrent de s'assurer de la fidélité d'une partie au moins de la population. C'est ainsi qu'ils ratifièrent et même accrurent les privilèges des Juifs. Ils les dispensèrent du culte de la déesse Rome, qui symbolisait la fidélité envers l'Empire romain. Par la suite, les Juifs furent de même dispensés du culte de César et d'Auguste, divinisés. Les Égyptiens païens, eux, étaient obligés de les adorer, mais on n'exigeait des Juifs que la prière pour l'empereur. Et les Juifs se montrèrent naturellement reconnaissants de ces faveurs spéciales, mais plus ils manifestaient leur gratitude, Et plus les Grecs et les Égyptiens autochtones les accusaient de manquer de patriotisme vis-à-vis du pays dans lequel ils vivaient. Un des privilèges les plus importants accordés aux Juifs de toute la diaspora était celui de s'organiser en communautés distinctes. La nécessité du culte en commun, l'importance des prescriptions alimentaires et l'esprit de groupe naturel aux gens de même origine amenèrent les Juifs à s'établir les uns près des autres. Et bientôt, il y eut des quartiers juifs dans la plupart des villes. Alexandrie, par exemple, comprenait 5 quartiers, dont 2 étaient presque exclusivement habités par des Juifs. Il est vrai que de nombreux païens vivaient dans ces quartiers et que maints Juifs aisés habitaient dans d'autres parties de la ville. Mais ces 2 secteurs étaient partout connus comme Juifs. Rome possédait également quelques quartiers à forte population juive. Chacun de ces quartiers avait sa synagogue et chaque synagogue avait son organisation propre. Il ne s'agissait pas simplement d'entretenir une maison de prière. La vie juive avait des règles de charité, de morale, de justice, très différentes de celles ayant cours chez les païens. La communauté juive avait un président, des secrétaires et des administrateurs préposés à la bienfaisance, qu'on appelait gavaim, et qui géraient ses divers services. Elle avait aussi des tribunaux réguliers pour juger les différends entre juifs, et elle détenait le droit de punir ses membres pour une infraction commise contre la loi juive. Les synagogues d'Alexandrie étaient unis en une vaste organisation à l'échelle urbaine. Il n'est pas sûr qu'il en fût de même à Rome. À la tête de la communauté d'Alexandrie se trouvait un homme choisi par les membres de la communauté. Sa situation correspondait à celle des ethnarques de Judée. Il y avait également un conseil de 70 membres, sorte de Sanhédrin, qui exerçait une autorité suprême sur tous les Juifs égyptiens. Les Juifs étaient fiers de leur organisation communautaire, mais elle fut l'origine des difficultés qui surgirent entre eux et les habitants non-juifs d'Alexandrie. Si les Juifs avaient toujours joui d'une autonomie religieuse et sociale, jamais on n'accorda de tels privilèges aux gentils qui, cependant, les demandèrent avec insistance. C'était pour eux une preuve supplémentaire que les Juifs formaient une nation séparée et qu'ils étaient des étrangers au milieu d'eux.
Smogna benotelistim pentalosna benot.
Les Juifs de la diaspora trouvèrent injuste d'être traités d'étrangers. Si être autochtone signifiait avoir contribué à la fondation des nouvelles cités du monde romain oriental, les Juifs firent valoir que nombre de leurs ancêtres avaient participé à cette œuvre, en particulier dans le cas d'Alexandrie. Si le patrimoine signifiait aimer sa cité et contribuer à sa grandeur, alors ils pouvaient affirmer leur loyauté et montrer quel avait été et quel était encore leur apport dans les domaines culturels et économiques. Ils insistaient sur le fait que la seule différence entre eux et leurs voisins était d'ordre religieux. Bien sûr, Il se tournait vers Jérusalem pour en recevoir des directives religieuses et ils envoyaient leur contribution annuelle au temple. Mais leur lien avec la Palestine était religieux et non politique. Les Juifs s'appelaient eux-mêmes Alexandrins, Antiochiens ou Romains et ils se considéraient comme de bons citoyens, au même titre que les autres habitants de ces villes. Naturellement, ce genre d'argument était inefficace. Les païens de la haute société refusaient de recevoir des Juifs. Ils ne pouvaient accéder aux hautes fonctions politiques. Et certains Juifs en étaient très affectés, surtout s'ils étaient riches et pas très pieux. Et quelques-uns abandonnèrent le judaïsme et se joignirent aux païens. Plusieurs d'entre eux étaient issus de familles éminentes. L'un de ces hommes devint procurateur de Judée et par la suite, il conduisit une légion romaine au combat contre Jérusalem. Oh, le judaïsme a toujours eu sa part de renégats. Mais en général, il perturbait peu la vie juive. Mais les Juifs qui essayèrent de confronter le judaïsme et l'hellénisme dans son expression la plus haute eurent une toute autre importance pour le peuple juif et pour la pensée occidentale en général. Était-il possible, se demandait-il, que le judaïsme attache une réelle importance à d'innombrables prescriptions concernant l'alimentation ou la vie privée? Ils répondirent à cette question par la négative. Certains allèrent même jusqu'à tourner en ridicule les prescriptions bibliques. D'autres professèrent que ces lois ne s'appliquaient plus aux Juifs de leur époque. Tous convinrent que les exigences du judaïsme n'étaient pas différentes de celles des philosophes grecs, à savoir se comporter selon la règle de la juste mesure et avoir le sens du devoir. D'autre part, un groupe de Juifs égyptiens menait une vie ascétique assez semblable à celle des Esséniens en Palestine. Il y eut beaucoup de penseurs, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'orateurs parmi les Juifs de la diaspora de cette époque, mais le plus marquant fut probablement Philon. Les œuvres des autres écrivains finirent par se perdre, tandis que les ouvrages de Philon furent conservés, surtout parce qu'ils exercèrent une grande influence sur les premiers chrétiens. Son nom juif devait être Yedidia, c'est-à-dire aimé de Dieu, ou encore David. Il appartenait à une des plus grandes familles d'Alexandrie. Il devint l'un des meilleurs interprètes de la philosophie de Platon, qui constituait la base de toute réflexion dans le monde gréco-romain. Philon prit pour tâche de prouver aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs que le judaïsme est la meilleure expression possible d'une vie moderne aux enseignements de la philosophie. D'une vie conforme aux enseignements de la philosophie. Sa méthode est dite allégorique. En d'autres termes, il affirme que la Bible n'avait pas pour but de raconter la vie de héros tels que Adam, Abraham ou Isaac, mais qu'elle désirait nous enseigner la manière dont les hommes devraient vivre. Il ne niait pas, comme certains de ses coreligionnaires, que ces anciens héros aient vécu ni que les événements racontés par la Bible se soient effectivement déroulés. Mais il disait que Dieu avait réglé la vie de ces grands personnages pour en faire des figures idéales. Il représentait la tempérance, l'hospitalité, la vie contemplative ou toute autre vertu que les Grecs prisaient tout autant que les Juifs. Philon, cependant, était un Juif pratiquant. Il n'admettait pas que les lois juives fussent inutiles ou ridicules. Même s'il ne pouvait trouver une interprétation philosophique à un précepte, il soutenait qu'il fallait continuer à l'observer car c'était un commandement divin. Philon considérait Dieu comme une puissance infiniment supérieure à l'homme, qui ne ressemblait pas aux divinités grecques ou romaines, simples êtres humains agrandis, mais il le situait bien au-dessus du monde. Lorsque Dieu désirait quelque chose, ce désir même créait la chose voulue. Hésitant, comme tous les Juifs, à faire appel à Dieu à tout moment, Philon appelait la volonté créatrice de Dieu le logos, c'est-à-dire le verbe de Dieu. Ce terme allait connaître une grande fortune avec l'essor du christianisme. Après ce qui a été dit de la rivalité entre juifs et païens et entre judaïsme et paganisme, il n'y a pas lieu de s'étonner si, avec le temps, des émeutes contre les juifs finirent par éclater. Quelques démagogues réussirent à exacerber les sentiments de la populace qui, envieuse, voyait dans les juifs un danger économique. À Alexandrie, le principal instigateur antisémite fut un orateur grossier nommé Appion, qui se prétendait philosophe mais que l'on appelait communément la cymbale du monde. Une étincelle suffisait à enflammer les passions de la populace alexandrine. Cette étincelle se trouva être une cérémonie juive en l'honneur d'un nouveau roi juif. En l'an 38, Caius Caligula devint empereur de Rome. Il nomma aussitôt son joyeux camarade et compagnon de jeu, Agrippa, roi de Haute-Galilée. Agrippa était le petit-fils d'Hérode et de Marianne. Du sang asmonéen coulait donc dans ses veines. La nomination d'un roi d'origine judéenne fut considérée en quelque sorte comme une restauration de l'indépendance juive. Lorsque Agrippa passa par Alexandrie pour prendre possession de son royaume, les Juifs jugèrent bon d'offrir une fête en son honneur. La foule alexandrine, qui n'avait pas de roi d'origine autochtone, le ressentit comme un outrage vis-à-vis de l'Égypte. Le lendemain de la cérémonie, le peuple se rassembla dans l'amphithéâtre et singea les Juifs en rendant hommage à l'idiot le plus connu de la ville qu'on avait vêtu à la manière des rois juifs. La plaisanterie terminée, la foule et ses chefs eurent peur de la colère de l'empereur car il s'était moqué d'un de ses amis. Hypocritement, ils eurent recours au patriotisme. Ils envoyèrent une pétition au gouverneur romain de l'Égypte, Flaccus, lui demandant d'obliger les Juifs à mettre une statue de l'empereur Caius dans leur synagogue. Ainsi, se montrerait-il aussi bon romain que les Égyptiens qui plaçaient de telles statues dans leur temple. Poussé par ses craintes et ses ambitions politiques, Flaccus, bien qu'il sût fort bien que les Juifs n'admettaient pas de statue dans leur synagogue et qu'un privilège impérial les dispensait d'une telle obligation, résolut néanmoins de se ranger aux côtés du peuple. Il promulgua une ordonnance à laquelle les Juifs refusèrent de se soumettre. Il les traita d'étrangers et fit fustiger publiquement plusieurs membres du Conseil suprême juif. Ainsi, au lieu d'être puni, la foule se trouva encouragée à continuer ses méfaits. Elle n'attendit pas une seconde occasion. Elle se précipita sur les demeures des Juifs les plus aisés qui habitaient en dehors des quartiers juifs et en pilla 400.
Dom Chalaim Mechelev Giborim Keshet Yeonatam Lo Nasoka Chol Vechelev Shaul
Les Juifs n'étaient ni faibles ni lâches. Ils s'étaient déjà heurtés à la foule dans le passé. Sans doute est-ce pour cela qu'elle ne s'était pas attaquée au quartier juif, mais s'était contentée de s'en prendre aux maisons disséminées à l'extérieur. Les Juifs étaient aussi décidés à ne pas laisser passer cette attaque sans y répondre. Et cependant, les circonstances ne leur étaient pas favorables. Le gouvernement leur était hostile et on les accusait de manquer de civisme parce qu'ils refusaient d'ériger une statue à l'empereur. Ils décidèrent d'envoyer une délégation à Rome pour se justifier et dénoncer leurs ennemis. Philon prit la tête de cette délégation. Les païens d'Alexandrie envoyèrent également une délégation conduite par le célèbre Appion. Comme on pouvait s'y attendre, Caligula, un déséquilibré, se trouva flatté qu'Appion le considéra comme un dieu, alors que les Juifs se refusaient obstinément à honorer sa statue. Il prêta peu attention à Philon, sauf pour lui poser des questions absurdes, dont il n'écouta d'ailleurs même pas les réponses. Et les Juifs rentrèrent chez eux, n'ayant obtenu d'autre satisfaction que le rappel de Flaccus, et ils attendirent l'occasion de prendre leur revanche. Cette occasion se présenta lorsque Caligula fut assassiné. Les Juifs avaient emmagasiné des armes et avaient reçu des secours de leurs coreligionnaires syriens. Dans les troubles qui suivirent, le bilan ne fut pas si défavorable aux Juifs que précédemment. D'ailleurs, Juifs et païens étaient disposés à poursuivre la lutte. Mais le nouvel empereur, Claude, plus équilibré que son prédécesseur, adopta une politique nette au sujet des troubles d'Alexandrie. Il demanda aux deux camps d'arrêter l'effusion de sang. Il confirma les Juifs dans tous leurs anciens privilèges. Il n'en accorda pas de nouveau aux autres Alexandrins, mais il blâma les Juifs d'avoir tenté de s'introduire dans la vie politique de la cité. Les causes des troubles n'ayant pas disparu, la situation n'évoluait guère, le problème n'était pas résolu. Le commerce prospère des Juifs irritait toujours leurs concurrents païens. Le judaïsme affirmait toujours sa supériorité sur le paganisme, et les païens refusaient d'accorder l'égalité sociale et politique aux Juifs. Ceux-ci ne pouvaient convaincre leurs voisins que leur lien avec Jérusalem était purement religieux, et les païens persistaient à les dénoncer comme des étrangers dénués de tout patriotisme, la double allégeance, vous savez, on sait ce que c'est encore maintenant, et tôt ou tard, la violence devait encore se donner libre cours.
Oh.
le petit groupe de disciples de Jésus vivait encore à Jérusalem, attendant sa réapparition, puisque un certain nombre d'entre eux donc attendaient sa réapparition, et qui, selon eux, devait bannir les maux de ce monde. C'étaient des gens pauvres, galiléens pour la plupart. Le disciple favori de Jésus, c'est-à-dire Simon-Pierre, et un de ses frères, Jacob, Jacques, étaient à leur tête. Comme ils croyaient la fin du monde proche, ils travaillaient peu, mais partageaient leurs ressources et menaient une vie communautaire, se réunissant, priant et prenant ensemble leur repas. Lorsque l'occasion s'en présentait, ils prêchaient les déshérités comme eux ou les Juifs venus de la diaspora. Et ils rencontraient beaucoup de succès chez ces derniers. Au bout de quelques années, Jésus eut bien plus d'adeptes parmi les Juifs grecs que parmi ceux du pays. En général, les Juifs ne se souciaient guère du petit groupe de leurs coreligionnaires qui ajoutaient à leur foi juive la croyance en un Messie qui aurait été crucifié par les Romains et qui aurait même ressuscité. De leur côté, les membres de la nouvelle secte ne faisaient rien de répréhensible et ils observaient toutes les pratiques juives. Par deux fois, quelques-uns s'exprimèrent en termes injurieux pour le temple. Ils furent alors attaqués par un groupe de juifs fanatiques. Un de ces incidents provoqua l'expulsion hors de Jérusalem de tous les adeptes de Jésus étrangers au pays, parce qu'ils semblaient être les principaux fauteurs de troubles. Les autres ne furent pas inquiétés, et cette brève persécution se solda par des gains très importants pour la nouvelle secte. En effet, les expulsés eurent l'occasion de répandre leurs idées là où ils s'en étaient allés. Ensuite, événement plus lourd de conséquences, un nommé Saül, originaire de la ville hellénisée de Tars, se joignit à la secte. Saül, ou Paul, pour l'appeler par son nom grec, était une personnalité de premier plan. Son caractère reste encore pour nous une énigme, mais son influence sur la vie chrétienne fut prépondérante. Il menait la vie d'un simple artisan dans la ville de Tars, où il fabriquait des tentes. Ce qui marqua à jamais son existence fut une santé précaire, une grande éloquence et une dévotion au judaïsme telle qu'il supportait mal la lenteur de la conversion des païens. Pendant des années, il dut se demander pourquoi les païens ne se ralliaient pas aux grands idéaux du judaïsme, dont la noblesse était si évidente, et pourquoi les Juifs eux-mêmes, parfois, les délaissaient. Il résolut enfin de se rendre à Jérusalem pour y étudier le judaïsme à sa source, et peu après son arrivée, il entendit parler des adeptes de Jésus. Il ne put admettre que des Juifs adoptent des croyances de ce genre. Cette idée le mit dans une colère telle qu'il participa à une émeute contre eux. Il demanda même à être délégué en d'autres lieux pour y exterminer la nouvelle secte. C'est alors qu'un fait étrange survint. En un éclair, il lui vint à l'esprit que l'on pouvait dissocier au sein du judaïsme les lois et les idéaux. Les Juifs de Judée devaient obéir aux lois aussi bien qu'aux idées, mais les autres Juifs ne devaient mettre l'accent que sur les idéaux afin de faciliter ainsi la conversion des gentils. Paul vit aussi que Jésus pouvait exercer une grande attraction sur le monde païen. Et il décida de le présenter non seulement comme un Messie venu racheter le monde, selon la doctrine des premiers disciples de Jésus, mais aussi comme un idéal, comme une personnalité divine, dont l'exemple pouvait influencer tout être humain, qu'il fût juif ou gentil, et le mener vers la perfection. Pénétré de cette idée, Paul chercha, avec l'ardeur obstinée qui le caractérise, à en convaincre les autres. Et Paul entreprit plusieurs voyages dans la diaspora, surtout en Asie mineure et en Grèce. Où qu'il arriva, il se rendait d'abord dans la synagogue pour prêcher sa nouvelle doctrine. Mais les Juifs se détournaient de lui avec irritation dès qu'il parlait de la divinité de Jésus ou dès qu'il attaquait les pratiques juives. Les disciples de Jésus à Jérusalem soulevaient également de violentes objections contre ses idées. Paul ne voyait pas, dans son enthousiasme, que ses idéaux ne pouvaient survivre sans les pratiques religieuses, disciplines indispensables à leur réalisation. Mais les Juifs de cette époque, instruits par les pharisiens, étaient conscients de leur nécessité. De plus, en présentant un judaïsme privé des cérémonies et du rituel juif, il rendait tout à fait impossible la conversion des païens à un judaïsme authentique. Les craignants Dieu, ou les demi-juifs, vous vous souvenez, lui firent un accueil des plus chaleureux. Ils formaient les noyaux des organisations créées par Paul, et c'était les églises. Mais comme les Juifs firent tout ce qui était en leur pouvoir pour l'empêcher de prêcher sa doctrine, Paul s'en irrita et se mit à tenir des propos désagréables sur leur compte. Il se tourna désormais presque exclusivement vers les païens. Pourtant, jusqu'à sa fin, il ne cessa de proclamer que le peuple juif était l'élu de Dieu, et il ne renia jamais sa propre appartenance au judaïsme. Lors de sa dernière apparition à Jérusalem, il rendit visite au temple et observa toutes les coutumes juives. Cependant, on apprit qu'il avait violé les traditions juives au cours de ses voyages. Il fut accusé d'avoir amené un païen dans l'enceinte sacrée du temple et on l'arrêta. Il ne fut pas condamné par les Juifs, mais il le fut plus tard par les Romains et il semble qu'il ait été exécuté à Rome. Ce qu'il advint de Paul compte moins que ce qu'il advint de son enseignement. Il est amplement prouvé que même de son vivant, les gens à qui il s'adressait l'ont mal compris. Il avait parlé d'idéal sublime, de charité, de rectitude. Il avait enjoint aux hommes de croire fermement en Jésus. Il les engageait à s'appuyer sur cet exemple parfait, selon lui, de vie divine, je reprends l'expression bien sûr, pour mener eux-mêmes une vie divine. Des hommes si justes n'auraient rien à craindre au jour terrible du jugement, et ils lui survivraient certainement, et au jour de la résurrection, ils seraient admis à revivre pour l'éternité. C'était l'enseignement donc de Paul. Mais la plupart des auditeurs de Paul ne retenaient que le lien entre la croyance en Jésus et l'obtention de la grâce de Dieu et de la résurrection finale. Et ils omirent l'échelon intermédiaire qui est l'obligation de mener une vie divine. Et c'est ainsi que la foi en Jésus devint la seule et unique base de la religion adoptée par les chrétiens d'origine païenne, tandis que les judéo-chrétiens vivant en Judée continuèrent à observer les lois juives. Mais ce fut finalement le christianisme d'obédience païenne qui l'emporta. De nombreux païens qui avaient admiré le judaïsme, ouvertement ou secrètement, avaient maintenant la possibilité d'en adopter une forme attrayante pour eux. Il n'est donc pas étonnant que le christianisme se soit répandu plus facilement et plus rapidement dans les villes habitées depuis longtemps par des juifs. Leur population était déjà au courant de la vie et des idées juives. Pourtant, pendant quelques siècles encore, on aurait pu dire qui, du judaïsme ou du christianisme, allait l'emporter dans la course à la conversion des gentils. Il nous faut aborder maintenant la grande révolte contre Rome, c'est-à-dire la crise qui marque un des tournants les plus importants de l'histoire juive. Après quoi, l'État juif cessa d'exister, et la religion juive dut s'adapter à une situation toute nouvelle. Depuis lors, le 9 Av, les juifs pratiquants s'assemblent dans leur synagogue pour pleurer la destruction de Jérusalem et la perte du Temple. Ce conflit, dont les conséquences furent tragiques, aurait-il pu être évité? C'est possible, mais il eût fallu plus d'honnêteté de la part de nombreux fonctionnaires romains et plus d'intelligence chez la plupart des aristocrates juifs, et enfin plus de patience et de soumission qu'on en pouvait attendre du peuple juif. Mais les circonstances furent telles que malentendus et frictions amenèrent peu à peu le peuple juif à se soulever contre Rome. La difficulté fondamentale provenait du fait que les juifs se sentaient humiliés d'être traités en peuple vaincu et que les romains manquaient de tact dans l'exercice de leur pouvoir. Ils trouvaient beaucoup plus aisé de gouverner des peuples comme ceux de Gaule ou d'Espagne, dont le sentiment national n'était pas encore développé comme celui des Juifs. Le joug romain ne créait pas non plus de problèmes sérieux chez les nations civilisées comme les Grecs ou les Égyptiens, car, après tout, Rome flattait leur orgueil en adoptant leur civilisation. La civilisation juive n'était pas seulement incomprise, mais encore ridiculisée. Rome ne connaissait que la force, et à l'égard des Juifs, la force était insuffisante. Rome ne blessa pas uniquement les sentiments politiques des Juifs, mais aussi leurs sentiments religieux. C'est ainsi que, pendant quelques années, un procurateur romain fit un geste qui ne fut pas apprécié. C'était une manière d'empêcher le grand prêtre d'officier le jour de Kippour. C'était un geste donc outrageant qui fut accompli par l'empereur demi-fou Caius Caligula. Persuadé d'être un dieu, Caligula se sentit offensé par le refus des Juifs de lui accorder des honneurs divins. Et il ordonna à Pétrone, son gouverneur en Syrie, homme intelligent, de contraindre les Juifs à placer une statue de l'empereur à l'intérieur du temple. Pétrone, muni de la statue litigieuse, partit pour Jérusalem à la tête de ses troupes. En Judée, des milliers de Juifs lui barrèrent la route. Comme les premiers chassidim, ils montrèrent une résistance passive et assurèrent Pétrone qu'ils étaient prêts à se laisser écraser sous les sabots de ses chevaux plutôt que de le laisser exécuter l'ordre impérial. Comprenant que le peuple parlait sérieusement, Pétrone, au péril de sa vie, abandonna sa tentative. Caligula entra dans une fureur telle, lorsqu'il apprit la désobéissance de Pétrone, qu'il lui dépêcha un message lui ordonnant de se suicider. Il l'aurait fait si la nouvelle du meurtre de Caligula par les Romains eux-mêmes ne lui était parvenue. Même lorsque le gouvernement romain était bien intentionné, ce qui était en général le cas, ses représentants en Judée étaient souvent corrompus et toujours autoritaires. Ponce Pilate, par exemple, considérait le massacre de milliers d'hommes comme un simple incident. Les procurateurs qui lui succédèrent ne valaient guère mieux. Le plus inoffensif fut Tibère Alexandre, mais sa seule présence blessait les Juifs, car c'était un Juif converti au paganisme. Ses successeurs pillaient, tuaient, acceptaient des pots de vin, de sorte que la paix et la justice ne régnèrent jamais dans le pays. Le pire de tous fut Florus, le dernier procurateur, qui, ne reculant devant aucune scélératesse, provoqua délibérément la rébellion des Juifs pour masquer la manière criminelle avec laquelle il avait mené ses affaires, tant publiques que privées. La rivalité politique et économique entre Juifs et non-Juifs en Judée fut une des causes principales de l'éclatement de la révolte. Rien n'est plus révélateur à ce sujet que leurs attitudes respectives vis-à-vis d'Agrippa. Caligula avait nommé Agrippa roi de la partie nord de la Palestine. Plus tard, l'empereur Claude agrandit le royaume d'Agrippa. Il y engloba la Judée et la Samarie, c'est-à-dire tout le territoire sur lequel avait régné Hérode, son grand-père. Les Juifs furent agréablement surpris par ce roi. Il avait été un libertin, un débauché, un prodigue notoire et, d'une manière générale, un bon à rien. On n'attendait certainement pas de lui qu'il fasse montre de sympathie pour les Juifs. Pourtant, il ne fut pas plutôt roi qu'il acquit le sens des responsabilités. Il observa la tradition et la loi juive, il se mêla au commun du peuple et manifesta même le désir de restaurer la vie nationale juive. Mais les gentils du pays ne furent pas contents. Ils observaient eux aussi les actes d'Agrippa et ils reconnurent qu'il suivait une politique pro-juive. Sa politique intérieure favorisait les Juifs. À coup sûr, sa politique économique ne serait pas différente. Pour eux, il fut Agrippa le mauvais. Et ils accueillirent avec joie l'annonce de sa mort subite après un court règne de 7 ans. Le gouvernement romain, craignant qu'un autre roi d'origine juive ne menât à bonne fin les projets d'Agrippa, replaça la Judée sous l'autorité de procurateur. Nous avons parlé, il y a peu de temps, d'un certain nombre d'entre eux. Agrippa II, fils d'Agrippa, reçut un petit royaume au nord du pays. Une fois de plus, la politique anti-juive l'avait emporté.
In Ваюмер Моше Асура Навере Это Мавы Агадоль Хасе Мадуа Лунирар Хасне Вая Адунай Кисар Лирхо Вайкра Элла Элохим Мит